merci à vous deux pour vos interventions qui, comme on a vu, se rejoignent sur plusieurs sujets. Donc, on a vu par exemple que vous avez traité quand même cette différence entre l'histoire, disons l'histoire des sujets, hein, dans une analyse, en fait, l'histoire qui se raconte, et la grande histoire. Et tous les deux, vous avez souligné en fait que ce sont deux choses complètement distinctes, hein, que la psychanalyse en fait ne s'adresse à la grande histoire, etc. Donc, c'est un point commun des deux exposés, je crois. Et ensuite, il y a quand même un trait commun aussi, c'est la question de la définition de l'événement, de ce que fait événement d'histoire. Et donc, d'un côté, tu as dit, l'événement, c'est l'émergence d'une singularité. Et toi, tu l'as dit avec Lacan, c'est un événement de dire, hein, si je ne me trompe pas. Donc, je voudrais revenir sur cette question. Pourquoi ? Parce que, et je pense que c'est une des questions du séminaire, en fait, de toute l'année. C'est alors, comment ça s'articule ce qu'on appelle la psychanalyse, le discours analytique et la grande histoire. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui reste un peu en suspens. Hein? Et donc, parce que bon, la psychanalyse, elle fait quand même partie de l'histoire, c'est une référence historique. Et si je suis ton raisonnement, hein, et même celui de la culture, disons, on voit bien qu'en tant que discours, il y a un passage à la grande histoire, en fait, justement, comme coupure, comme un événement. Donc, au fond, c'est une autre manière de poser la question, c'est de savoir si la psychanalyste, ce n'est pas aussi un événement de l'histoire. Voilà, donc, et donc, effectivement, comment ça s'articule, en fait, par quel chemin, en fait, ça passe. Voilà. Ensuite, je voulais poser des questions en fait un peu plus particulières en fait à l'exposé de chacun. Tu as cité en fait une en fait à Lacan en fait quand il dit c'est pour toi Marc en fait il dit en parlant en fait de cette histoire, de la gifle, etc., de ce qui se transmet en fait d'une génération à une autre, tu dis que ces affinités, source des désordres immaîtrisables, tant qu'elles restent latentes, peuvent être reconnues, c'est un peu la visée de la psychanalyse, et ça laisse supposer que ces désordres, ils disparaissent pas, mais ils peuvent être maîtrisés si les sources de ces affinités cessent d'être latentes et sont reconnues. Bon, je pense que dans cette phrase, on peut reconnaître déjà l'opération freudienne, au sens de roman familial, etc. Donc, et à partir de là, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que Lacan, par rapport à cette question, en fait, apporte en plus. Qu'est-ce qu'il amène de nouveau, voilà. Disons, qu'est-ce qu'il pousse de plus, par rapport à ce qui peut changer en fait dans la position du sujet par rapport à ces événements, etc. Voilà. Et pour toi, Armando, j'ai deux petites questions aussi. Tu as dit que pour le discours analytique, alors sa survie dépend de la passe. Et tu as fait un... fait un lien quand même avec la question de l'histoire, voilà.
Ouais.
Et donc je voulais voilà que tu en parles un peu plus de ça, en fait, de pourquoi ça dépendrait que de la passe, d'autant plus que bon, avant la passe, il y avait déjà le discours, avant l'invention de la passe par Lacan, il y avait quand même le discours analytique et il y avait quand même quelque chose qui continuait à se transmettre, en fait, pour le dire d'une certaine manière. Et dans la même idée, en fait, je voulais revenir aussi sur la question de la pudeur, en fait. Parce que, je me trompais, j'ai eu le sentiment quand même qu'il y a une certaine promotion de l'affect de la pudeur. Disons, et donc je voulais savoir si pour toi, en fait, la pudeur, ça serait un affect, disons, disons qui est lié de manière intime à la psychanalyse. Il y a une particularité en fait dans ce qui est une analyse en fait de production de cet affect. Et ensuite en fait t'interroger sur les parallèles que tu fais au niveau de la du témoignage en fait, parce que tu as fait un parallèle entre les témoignages d'une déportée et les témoignages du passeur en fait. Est-ce qu'il s'agit du même témoignage? Est-ce que c'est la même finalité? Tu as parlé de transmission, mais du coup alors ça serait transmission de quoi? Parce que pour le déporté on peut saisir mieux au sens des, par exemple, transmettre en fait des faits qu'il ne veut pas qu'ils se reproduisent, etc. Mais est-ce qu'il s'agit de la même chose pour l'AE, quoi. En tout cas pour le passant. Voilà, voilà, c'est ça les questions que je voulais vous poser. Après, je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite ou on passe la parole à la salle. Donc, si tu préfères répondre.
Oui, il y en a deux, ça suffit. Oui, alors pour ta première question, l'articulation de la grande histoire et de la psychanalyse, il me semble que j'en ai traité un peu au départ de mon exposé. Lacan insiste sur le fait qu'il ne se passe rien dans l'histoire que les historiens prennent pour objet. C'est l'histoire qui suppose une finalité. Et on sait la critique qu'il fait de l'histoire hegelienne en disant qu'il n'y a jamais de synthèse et qu'on met dans, comme finalité, c'est un escamotage, on postule dans ce cas-là comme finalité ce qu'on a mis au départ, c'est-à-dire l'unité du sujet. En revanche, Lacan ne dit pas qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a une histoire des discours. Et il la réfère à des noms propres, Lycurge pour le discours universitaire, etc. Et le discours analytique, ce sont des discontinuités historiques. L'apparition des discours, alors évidemment il n'y en a pas tellement, ça ne fait pas beaucoup d'air. Si on peut parler d'air de discours, le discours du maître, le maître antique, universitaire, puisque l'hystérique est solidaire du discours du maître, leur histoire est commune, hein, inséparable. Cela dit, il y a aussi l'histoire de la façon dont les collectifs organisent chaque discours. Et je vous donne un exemple qui m'a frappé parce que je suis en train de lire, quand j'ai le temps, la très remarquable biographie d'Aragon par Forest, très très beau livre, et j'ai été frappé par une citation d'Aragon dans les années 23 avant qu'il ne devienne compagnon de route puis communiste, et qui se voulait encore surréaliste et révolutionnaire donc. Et il parlait de la révolution bolchevique, Aragon, avec son sens extraordinaire de la langue et des formules, en disant que pour lui ça se résumait, la révolution bolchevique, à une crise ministérielle. Alors c'est une très belle formule, mais Lacan à sa façon n'a pas dit autre chose sur ce qui se passait à l'Est comme discours du capitalisme. Il y a différentes façons d'occuper les places dans un discours donné, et il y a des changements, le maître, une certaine forme de maître remplace un autre maître, etc., tout en restant dans le même discours. Donc il y a quand même une possibilité d'interpréter l'histoire à partir, me semble-t-il, des discours de Lacan. Mais nous ne pouvons pas faire l'histoire, je l'ai dit, puisque justement ce qui fonde le discours analytique, c'est qu'il ne régit aucun collectif. Ça, c'est pour ta première question. La deuxième est tout à fait intéressante et importante aussi, d'opposer, comme tu le fais, la gifle lacanienne et le roman familial de Freud. Effectivement, Freud fait un très très beau roman à partir d'une claque que reçoit le sujet quand on lui colle un petit frère ou une petite sœur et qu'il est déçu de ne pas recevoir en retour tout l'amour qu'il pense pouvoir attendre de ses parents. Hein, c'est une déconvenue de l'existence, mais ça arrive souvent. Et il y en a toujours, et donc le sujet se met par vengeance à élaborer tout un scénario dont Freud montrera à la fin de l'article qu'il consiste finalement, tout ce scénario plein de turpitude, il faut bien le dire, qui consiste à sauver le statut d'exception. Sauver le statut d'exception des parents et du sujet, autrement dit sauver la signification phallique. Freud reste à la signification phallique, là où il me semble que Lacan, déjà en 1957, avec cette référence au signifiant, à sa structure, sa logique, se décolle de cette signification phallique. La gifle, c'est un signifiant dont il dit lui-même à quel point il subit, il n'est pas corrélé au phallus, mais il est corrélé à la sexualité, à une représentation du couple sexuel, du choix des partenaires, mais comment il subit une dégradation progressive de génération en génération, et que finalement, cette gifle comme signifiant a quelque chose d'absolument particulier, singulier, de propre à ce sujet, qui ne se résume pas à la seule signification phallique, mais qu'il y a quelque chose là qui est propre à l'histoire de cette famille-là.
Oui, mais tu serais d'accord pour dire que du coup, dire que c'est l'effet de, disons, du fait qu'elle soit plus latente, d'être reconnue, ça suffit pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose de supplémentaire qui est nécessaire pour que ça se produise.
Que quoi se produise ?
Parce que toi, dans la formule, il y a l'idée en fait qu'on peut les maîtriser si ces affinités cessent d'être latentes et sont reconnues.
Mm-hmm. Mm-hmm. Désordre immaîtrisable.
Ça permet de reconnaître ces significations. Donc,
absolument.
Tu viens de parler.
Absolument.
Mais avec Lacan, tu vois, pour introduire justement un pas supplémentaire, ça suffit pas juste de reconnaître, disons de les reconnaître. Il y a quand même une opération supplémentaire sur la jouissance en fait qui est incluse.
Absolument. Donc
c'est sur ce point-là.
Tout à fait d'accord. Tout à fait. Voilà, moi, puisque j'ai le micro, je vais me permettre de poser quelques questions en plus de celles que tu as posées, Carlos. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de la thèse freudienne d'une analyse achevée ? C'est une analyse qui a levé l'amnésie infantile. Je te pose la question parce que tu l'as évoquée. Est-ce que ça reste vrai ? Deuxième question, j'ai pas compris, la phrase est belle, mais j'aimerais bien que tu l'expliques un peu. Le bien-dire gouverné par la pudeur, ça choque, mais ça ne viole pas la pudeur. Quelle est la différence entre choquer et violer la pudeur ?
C'est une phrase de Lacan.
C'est une phrase de Lacan, mais s'il l'a citée, je suppose qu'il l'a mieux compris que moi qui ne la connaissais pas, qu'il l'ait entendue pour la première fois. Et j'aimerais bien avoir son commentaire sur cette phrase, s'il veut bien le donner. Et je crois que... Non, ben ça, oui, j'ai une question, mais c'est pour plus tard, éventuellement.
Alors, bon, il y a beaucoup de questions. Bon, j'ai... La salle chauffe, donc... Non, j'ai pris beaucoup de risques. C'est sûr que j'ai pris trois. Vous avez bien vu que j'ai fait beaucoup de propositions. Oui, pour moi, la question, bon, parce que c'est quelque chose qui m'a. J'avais travaillé un peu, je voulais reprendre maintenant sur ces questions des. Il me semble que ces confrontations à Foucault à ce moment-là, c'est quelque chose qui est encore présent. Qui est la réponse, me semble encore, on a du mal à l'entendre par rapport à si la psychanalyse est un. C'est quelque chose, comme Foucault disait, c'était pas, ça fait pas coupure, mais ça fait. Quand il écrit l'histoire de la sexualité, on relit toute l'histoire de la sexualité, c'est construite pour montrer, justement, il est dit clairement. Montrer que l'interprétation des rêves dans la Grèce ancienne, tout ça, c'était déjà dès la psychanalyse. Donc, c'est-à-dire que ce que fait un psychanalyste aujourd'hui, pour Foucault, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui...
C'est des formes différentes.
Voilà, ça a pris une forme. Voilà, il me semble que c'était ça. Il me semble que tous les discours qui sont contre la psychanalyse prennent cette forme. C'est-à-dire, de toute façon, ça a toujours existé, mais il n'y a pas eu de nouveautés. C'est pour ça que je voulais. Il me semble que ça, c'est un point pour moi essentiel. C'est-à-dire que quand Lacan s'arrête là-dedans, et vraiment, ils prennent le temps de revenir sur. Sur ce que Frédéric Pellion a travaillé très bien, c'est-à-dire que c'est même avant Freud, c'est-à-dire que Lacan l'a dit, c'est l'événement, c'est pas tellement Freud, c'est pas un événement historique, là, il a dit Lacan, dans les propos sur l'hystérie. Il dit c'est justement c'est quelque chose d'autre que Freud lui-même, c'est pour ça que j'ai repris très longuement les premiers passages et comment Freud lui-même, il était en train de faire face à quelque chose de...
Oui, c'est un événement historique.
C'est l'apparition d'un nouveau digne.
Oui, c'est ça.
Pourquoi ce ne serait pas un événement historique? C'est la définition de l'événement historique.
Oui, non, tout à fait, mais Lacan lui-même, bon, j'étais étonné qu'en préparant ici, que Lacan lui-même dit Freud n'est pas un événement historique dans les propos sur l'hystérie.
Il doit y avoir un contexte.
Oui, tout à fait, oui. Pourquoi il dit ça à ce moment-là? Mais oui, mais disons, effectivement.
C'est une manière de dire qu'il n'est pas qu'un événement historique, mais ça ne veut pas dire que le surgissement de son dire ne soit pas, ne passe pas à l'événement.
Oui.
C'est pas un événement historique au sens des historiens. Voilà. C'est peut-être comme ça. Que je
peut-être on peut les lire. Oui, il faudrait pas les textes.
Avec les prémices, le contexte, etc.
Donc voilà, ça c'est une question par rapport à les. Donc Lacan, il semble que bon, il a pris beaucoup de temps. C'était les années 70. Il fallait répondre à l'anti-Édipe, Deleuze, tout ça, par une réponse à l'anti-philosophie. Non, il y a coupure, et ces coupures, elle est claire, elle est nette, et le sujet de la psychanalyse, c'est un sujet qui est en lien avec le sujet de la science. Donc il me semble que Lacan... c'est-à-dire que c'est important que s'il ne fait pas, il ne développe pas la question des discours, des coupures, de cette insistance, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas répondu à un moment historique de... qui est essentiel pour la suite, justement, parce que après la question pour lui, ça va être la question de justement comment ne pas faire de cet événement produire quelque chose de particulier pour aller extraire autre chose que des histoires à raconter et justement faire quelque chose où bien cette affaire de la pudeur, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que j'ai mis un parallèle avec ce qu'Annelise Ester elle dit du témoignage. C'est un peu, peut-être c'est pas un peu frappant, mais c'est dans le sens de que il me semble qu'aujourd'hui il y a une tendance à dire que toute production d'un sujet aujourd'hui, tout sujet est historique en quelque sorte. Tout ce qu'on dit c'est important. Une vie banale peut devenir une vie pratiquement historique. J'ai dit ça parce que là où je travaille, dans le centre Primo Levi, justement, les journalistes, ils appellent tous les jours pour avoir des témoignages des gens qui ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Ils ont dit non, c'est pas possible. Donc les journées s'écrivent même là. Donc il y a quelque chose de cet ordre où on est devenu un document historique, simplement parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est là où il me semble la question de la pudeur. Lacan avait quelque sorte anticipé aussi qu'il y avait quelque chose qui, dans l'acte d'écouter, dans l'acte de témoigner, de transmettre, il y a quelque chose à tenir compte de cette barrière essentielle de qu'est-ce qu'on fait de la parole de l'autre, quoi, par rapport à ça. Bon, je ne sais pas.
Est-ce que tu... tu m'as pas répondu.
Oui, j'ai pas répondu.
Je crois que je vais
répondre. Surtout que j'en ai d'autres derrière. L'idée que j'ai, parce que c'est très compliqué, moi,
L'amnésie infantile.
Oui, alors l'amnésie infantile. Non, je pense. Non, en tout cas, c'est pas ça. C'est pas ça. Effectivement, c'est pas en question de. Ça y est, j'ai tout vu, j'ai connais mon histoire, etc. C'est pour ça que j'avais évoqué c'est Michel Buissereau des tournées en rond, de la question où c'est pas tellement la question de reconstruire complètement l'histoire, mais c'est quelque chose dans ces répétitions de l'histoire, dans ce qu'on raconte tout le temps, c'est vivre les temps autrement. C'est-à-dire que c'est un effet par rapport à le passé, le présent. Donc il me semble que c'est plutôt dans la question de la manière comment on vit les temps. C'est pour ça qu'il me semble que le dernier séminaire de Lacan sur les temps, il insiste sur cette question du temps quand même. Il les choque, les bien dire choque mais ne viole pas. Il me semble que c'est un lien avec l'interprétation. C'est-à-dire qu'une interprétation qui produit un effet dans les sens analytiques ça dévoile quelque chose, tout ce qu'on a travaillé autour de montrer quelque chose, et après ça se referme. Effectivement, c'est ça, ça montre quelque chose, mais ça ne viole pas, c'est-à-dire ça produit pas l'effet des hontes où le sujet est encore pris par l'autre. Il me semble que c'est différent de la honte. Et la pudeur et honte, c'est pas la même chose, et c'est là-dessus qu'il me semble que... Voilà, c'est quelque chose à travailler. Voilà.
D'accord. Bon, avant de passer la parole, juste un petit commentaire sur cette question, parce que je pense que c'est dans les deux textes, hein, c'est-à-dire que je pense que des fois on dit trop rapidement, en fait, que, disons, en gros, l'histoire, en fait, est méprisable, presque, en fait, c'est-à-dire... Mais Lacan, en fait, autant il était très dur, en fait, envers le métier d'historien, mais sa conception de l'histoire, ça ne se réduit pas à sa critique du métier d'historien. Et moi, je pense que c'est vraiment important de rétablir ça, parce que, par exemple, quand vous dites que c'est un événement singulier ou un événement dire, c'est aussi une manière d'inclure le dire, la psychanalyse dans l'histoire, puisque c'est le fruit du dire de Freud et de Lacan.
C'est surtout l'apparition d'un nouveau discours.
Ouais. Et de la même chose, en fait, je trouve que par rapport à la science, mais en même temps, c'est une impression et c'est une question. Par rapport à la science aussi, je pense qu'il y a une différenciation par rapport à du rapport à la science, à la vérité, que moi, personnellement, ne me satisfait pas. C'est-à-dire qu'on dit la différence avec la vérité dans la psychanalyse, c'est que pour la science, la vérité, c'est une vérité qui est liée à des dates, des choses comme ça. Vous voyez, on vient de parler des ondes gravitationnelles. Et c'est intéressant parce qu'il dit que c'est un événement historique, hein, ça vient de la science, et en fait, c'est référé comme un dire, comme un qui est le dire d'Einstein. Donc, je ne pense pas qu'un scientifique qui nous écoutait, en fait, il serait forcément d'accord avec ça. Je pense que pour les scientifiques, il y a quand même un rapport à la vérité qui n'a pas la même visée, c'est vrai. Mais qui, quand même, n'est pas une vérité complètement achevée. C'est une vérité qui est tout le temps renouvelée. Mais voilà, donc, et du coup, je pense que c'est juste pour relancer le débat. Après, il y a Jean-Jacques Guerot qui a demandé la parole, et Colette Solaire.
Okay. Oh là, Jean-Jacques, je crains qu'il ne soit pas assez long. Tu veux bien te déplacer un peu ?
Très court. Il est même très court. Non, c'est bon. D'abord sur le choquer l'interprète. Là, j'ai trouvé la réponse. Bon, mais enfin, je m'amusais un petit peu en disant c'est la différence entre la grossièreté et la vulgarité. C'est-à-dire bon. Je pourrais faire le commentaire. Ce que je voulais dire d'abord d'important par rapport à l'histoire, c'est que Lacan n'a jamais cessé d'inscrire des coupures. Justement, c'est pour ça que je trouve très important, par exemple, celle de l'amour courtois. Bon, c'est-à-dire considérer que l'histoire se découpe avec des événements qui changent effectivement le discours et que l'histoire, c'est pas un long fil continu. Donc, en effet, c'est pour ça que j'appréciais la différence avec Foucault. Ici, que Lacan introduit, parce qu'elle est aussi essentielle dans le cadre de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui, dans la psychanalyse, fait événement. C'est-à-dire, après tout, la coupure interprétative, elle est là pour ça, pour faire événement. Bon, je reviendrai sur le plus tard.
Oui, non, Jean-Jacques, je disais, c'est pas la différence entre grossièreté et je sais pas quoi, tu avais dit. Et vulgarité, je crois que Il dit « le bien-dire choque la pudeur mais ne la viole pas ». En effet, le bien-dire dévoile quelque chose qui était dissimulé. Donc ça choque la pudeur, mais ça ne la viole pas parce que le bien-dire n'est pas obscène. C'est exactement ça. Ça violerait la pudeur si le bien-dire était obscène. Le bien-dire dévoile, mais il n'y a pas question de vulgarité là. Bon. Non, l'obscène, c'est mettre sur la table ce qui ne doit pas y être. Le bien-dire ne met pas tout sur la table. Le bien-dire, justement, c'est pas tout dire de façon obscène. Donc, ça ne viole pas la pudeur, et cependant, ça dévoile quelque chose qui, avant, sans le bien-dire, ne serait pas révélé. Enfin, on peut employer ce mot.
C'est la différence entre chatouiller et violer.
Non, c'est entre révéler... bon, c'est pas capital, hein, enfin... Alors, je voudrais intervenir sur deux points, l'histoire de la coupure et l'histoire des historiens. Alors, contrairement à ce que vous avez l'air de dire, moi, ce qui me frappe, c'est que Lacan n'a pas tellement dit de mal des historiens. Bien sûr, il dit « il ne se passe rien dans l'histoire des historiens », mais au fond, c'est un propos qui s'éclaire, pour moi en tout cas, bien, parce qu'il a dit de beaucoup plus précis sur les historiens dans Radiophonie, disant que le drame des historiens, hein, le drame des historiens, c'est de ne pouvoir lire que le sens alors qu'ils n'ont que les documents de la signification. Autrement dit, c'est une façon de dire que l'historien, quels que soient ses efforts, il rate le réel. Hein ? Et du coup, il ajoute, dans le texte où il dit « ne se passe rien », il ajoute qu'il n'y a d'histoire que par les déportés et qu'on ne raconte que des exodes. Et là, je trouve qu'on pourrait faire un rapprochement avec la psychanalyse, très 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 précis, surtout tel que Lacan l'apprend à la fin. À partir de encore, parce qu'au fond, on pourrait très bien dire que ce qu'il dit de l'histoire, on pourrait dire une psychanalyse ne raconte que des histoires de corps, hein, de corps, et c'est autre chose justement que des histoires de génération, hein, c'est des histoires de corps. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est des traces, mais qui marquent le corps. Donc là, il y aurait beaucoup plus de rapprochements à faire, finalement, même au niveau de la conception de l'histoire et de la psychanalyse. On pourrait faire le rapprochement, me semble. Non, ça ne l'exclut pas, ça ne l'exclut pas. Alors ça, c'était ma première remarque. Alors, sur l'histoire des coupures... c'est tout à fait certain qu'on peut difficilement... Enfin, oui. Je ne sais pas jusqu'où, mais pendant, en tout cas, une bonne partie de l'enseignement de Lacan, la notion de coupure est inéliminable de la psychanalyse, hein. Ça, c'est, on pourrait faire même le recensement à travers tous les textes. Bon. Cependant, quand même, il me semble que le contexte épistémologique d'aujourd'hui est quand même bien différent de celui des années 70. Parce que dans les années 70, sur cette histoire, l'opposition Foucault et le structuralisme et ses coupures, dans les années 70, la grande référence de Lacan, c'était la science physique, avec Coiré, qui est celui qui a introduit justement l'histoire des coupures épistémologiques pour la physique. C'est formidable, Coiré. Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, on est bien loin de ça. On est très loin de ça, que l'épistémologie de la physique est tout à fait autre chose. Et qu'en plus, la grande science, c'est plus la physique, c'est la biologie actuellement. la science, bien sûr, il y a les deux. Elle est pas. Non, mais science au sens où actuellement, ce qui fait des bons en avant, c'est la biologie. La physique, elle fait des petits pas, mais sur fond de quelque chose. D'ailleurs, ce qu'on vient de découvrir, ça date d'il y a 100 ans. Hein? Donc, on vérifie ce qu'Einstein a dit il y a 100 ans. C'est formidable, mais c'est pas. C'est pas un saut. Ouais. Oui. Bon, donc ceci pour dire que l'histoire des coupures, des coupures hors de la psychanalyse, c'est plus du tout au moment de 70 et les commentaires de Milner, ça s'appuyait vraiment sur un fond d'un commentaire de la science physique qui est plus tout à fait le même aujourd'hui.
Parce qu'après, il reprend la question des nœuds, c'est plus d'actualité quand même, par rapport à la question des... Parce que ce qui est dans un nœud, il y a plus... c'est différent, c'est une question des places, c'est pour ça il me semble qu'il y a la question des... Quand il passe de la langue, l'appareil, la structure à l'appareil, dans ces passages, il y a aussi...
Mais oui, c'est pour ça que je restais prudente parce que les coupures et le nœud borroméen, ça c'est encore autre chose. On peut couper un nœud, mais faire un nœud, c'est pas couper, hein. C'est même le contraire. Donc, oui.
C'est plutôt des nœuds, des places, c'est différent. C'est topologique, c'est un peu.
Oui, il y a Bernard.
Le fil n'est pas extensible.
Voilà.
Ici.
Alors on prend celui-là. Tiens, prends celui-là. Voilà, et on va prendre celui-là ici.
Il n'est pas extensible non plus, ce bas, voilà, ça marche. Oui. Alors, il me semble, Marc, que tu as posé quelque chose qui, je suppose, va être discuté pendant toute cette année. Et qui est la question de l'histoire des discours. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut produire une histoire des discours, ça me semble très très complexe, mm-hmm. qui ne soit pas prise dans le discours de l'histoire. Mm-hmm. Et je crois que justement, on n'en a pas fini avec Foucault. Hein. C'est ce que j'ai trouvé fort intéressant dans votre exposé, Armando. Oui, c'est ça. Hein. On est plutôt dans le retour.
Il est la Pléiade.
Et précisément, en ce qui concerne l'hétérogénéité des discours et leur articulation, entre autres, la position du discours de l'analyste dans une histoire des discours me semble très, très complexe à penser, parce que c'est pas la fin de l'histoire, l'intervention du discours de l'analyste. Et si on le place à la... En terminaison des quatre discours, là, il y a un problème très très délicat.
Okay.
Mais ben, que le discours de l'analyste viendrait au fond ponctuer l'histoire des discours, comme
c'est
si c'était un moment de finalité.
C'est un point de vue. D'accord.
Comment ?
C'est un point de vue.
Alors
d'accord.
Voilà, c'est. Ça me semble de, parmi
oui, la oui, ronde. Compléter leur ronde.
C'est le point final.
Il dit compléter leur ronde. Il parle d'une complétude.
Avec lui.
Oui, c'est ça.
Mais alors, y a-t-il une histoire des discours si c'est une ronde ? Voilà le type de débat qui me semble que tu ouvres et qu'on a déjà discuté souvent, mais qui me semble au centre du travail de cette année avec ce thème. Je ne veux pas insister là-dessus, ça reviendra. Moi, la remarque un peu... J'étais moins convaincu par ton attaque. C'est-à-dire, il ne se passe rien.
Ah, ce n'est pas la mienne. Mais
ah oui, non, mais c'est ce que tu reprends.
Voilà. Je la reprends.
Moi, il me semble que celui qui dit « il ne se passe rien dans l'histoire » dit en fait quelque chose comme « il ne se passe rien pour moi ». Et ça, c'est au fond, j'ai l'impression que c'est la position, disons, de l'intellectuel depuis le XVIIIe siècle, qui prend distance avec le cours de l'histoire, et le libéral à l'ancienne mode de Freud, c'est ça aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est abonné au journal Neue Freie Presse des libéraux de Vienne, qui le lit tous les jours, mais qui se pose à distance de ce qui se passe. Et ça me semble une question extrêmement complexe et problématique pour nous, dans la mesure où, entre autres, on a dans la clinique ça. Celui pour lequel il ne se passe rien, c'est M. K. Alors, qui est le plus naïf ? Est-ce que c'est M. K qui assigne à Dora qu'il ne se passe rien pour lui dans l'histoire avec sa femme ? Ou est-ce que c'est Dora qui le déshabille, en quelque sorte, à partir de là ?
Il donne une gifle.
Voilà.
Ouais, c'est la gifle, voilà. Voilà, très bien. Bon, donc, vous allez pouvoir...
Justement, là, on pourrait marquer la distance entre Joyce et Lacan, parce que Lacan ne dit pas qu'il ne se passe rien dans l'histoire. Il dit qu'il ne se passe rien dans l'histoire des historiens, parce qu'ils n'ont qu'accès au sens. Bon. Et pour Joyce, par contre, il ne se passait rien dans l'histoire à laquelle qu'il traversait. Il y a le témoignage de son frère, qui, au moment de la guerre... Son frère, qui lui était politisé et même militant, qui allait, oui, et donc à l'époque de la guerre, il essaye de persuader James que il lui parle de ce qui se passe et tout ça, et il lui répond. Il a noté la réponse. Il lui répond : tout cela ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est le style. Donc c'est exactement ce que vous disiez. Alors là, pour le coup, il est concerné par rien de cette histoire-là. Ça n'a jamais été le cas de Lacan.
Oui. C'est pas le nôtre
non plus, j'espère.
Bon, je crois que vous te répondre à...
rapidement, oui.
Ces interrogations.
Oui, l'histoire des discours, tu as raison, mais on peut d'ailleurs souligner, pour aller dans ton sens, que Lacan n'a pas longuement développé cette histoire des discours. À un moment, il en apparaît un qui fait coupure, il est inédit dans l'histoire, on en prend acte. Alors effectivement, il a dit d'un côté que le discours analytique complétait la ronde, et que compléter les trois autres, il l'a dit, complet. C'est rare chez Lacan, la complétude, c'est plutôt la coupure, celui qui est primordial. Et donc complète, et en même temps les éclairs, etc. Donc il y a chez l'idée, quand même chez Lacan l'idée d'un discours qui manquait aux trois autres, qui, justement, comme il y a quatre places et quatre éléments, c'est ce qui permet de compléter quelque chose. Ça ne veut pas dire que l'histoire est finie, je crois que Lacan ne l'a jamais dit, ne serait-ce que parce que dans le discours du maître n'est pas mort. Aucun des discours n'est mort, et là aussi, il y a des remaniements, des figures sociales qui occupent la position de commandement. Et il a en plus ajouté le discours du capitalisme, qui ne s'inscrit pas dans cette ronde, mais qui manifestement a des effets historiques. Voilà, cela dit, pour l'autre question, il ne se passe rien. Effectivement, c'est une référence explicite à Joyce, c'est dans la conférence sur Joyce, l'histoire que les historiens prennent pour objet. Moi, je l'ai lu comme ça, qu'effectivement, il ne se passe rien de nouveau au sein d'un sens de l'histoire qui irait vers un accomplissement, qui est ce tour de passe-passe qu'il a dénoncé chez Hegel. Ce qui se passe dans l'histoire, et Lacan, c'est un très joli passage, tu le connais bien, Colette, où Lacan parle à la fois de l'histoire, des historiens, et des exilés de Joyce, puisqu'il commence en effet le passage en disant l'histoire n'est faite que d'exils dont ne se raconte que des exodes. Et relisez l'histoire, si tu relis les exilés de Joyce, c'est exactement l'histoire que tu viens de raconter. La pièce de théâtre, c'est le combat entre quelqu'un qui veut faire l'histoire, là quand le commande d'ailleurs aussi dans le passage, ceux qui croient faire l'histoire sont aussi déportés que les autres, et c'est entre le frère qui est en fait un ami proche dans les exilés, qui veut faire l'histoire et qui milite, alors que le personnage principal, l'écrivain, cherche la vérité d'un amour sans demande. Et ce qui se passe dans l'histoire, c'est la répétition du ratage. Ça se passe dans l'histoire. Que ce soit l'histoire individuelle ou la grande histoire, la répétition. Mais qui prend évidemment toujours des formes inédites.
Oui, non, juste oui, dire un mot sur la passe, parce que quand même. Bon, ces phrases un peu. Non, parce que, oui, je ne sais pas, la question dans les quatre discours, les discours de l'analyste, quand même, c'est l'objet petita. Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu sur la passe et l'objet petita, parce que comment faire témoigner un objet ? C'est en quelque sorte... il fallait inventer un dispositif particulier, parce que sinon, il me semble que sinon, on dérape tout de suite sur tout ce qu'on vient de dire, sur... je sais pas, un témoignage quelconque. Donc, il fallait produire quelque chose de bien particulier pour montrer qu'il ne s'agit pas du sujet qui témoigne, mais justement ce qui s'est produit d'un dire particulier. Donc ça impliquait aussi de construire tout un dispositif pour soutenir cette affaire et qu'il ne ressemblait pas aux autres discours. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur... sur l'événement, que c'est l'événement de déplacer, très déplacé en tant que sujet pour occuper une place d'objet, en quelque sorte. Et que ça, c'est un événement aussi. C'est un événement qui implique qui impliquait un dispositif, d'ailleurs, que les mots dispositif, c'est aussi très foucaultien, d'ailleurs, par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est un dispositif ? Donc, voilà, c'était juste ça.
Mais justement, mais est-ce qu'il s'agit de la transmission du témoignage ? Tu vois, parce que, évidemment, là, tu nous montres bien que c'est un dispositif qui permet quand même de faire valoir cette dimension du réel, hein, mais justement comme quelque chose d'intransmissible. Donc, peut-être, en fait, il ne s'agit pas du témoignage, en fait, comme transmission, mais de quelque chose qui est au niveau, disons, de l'acte lui-même, quoi, en fait. Hein. Mm-hmm. Bon, c'est une question. Sinon, je voulais revenir sur cette question de l'histoire des corps, des déportés, etc., parce que ça peut s'appliquer aussi à l'histoire de la psychanalyse. Et moi, je trouve que, justement, tout ce qui l'a comproduit est très rigoureux, en fait, par rapport à cette notion, parce que Lacan, il se réfère toujours à l'émergence, en fait, de ce qu'il produit comme une coupure par rapport à quelque chose qui s'est produit dans la psychanalyse de son époque, de ce qui le précède, etc. Il y a toujours cette histoire-là, et je pense que quand il dit c'est aussi toujours une histoire d'exilés, de déportés, etc., il s'inclut lui-même avec la question de l'excommunion, par exemple, donc au même sur les implications en fait disons de tous les psychanalystes qui sont partis en fait après-guerre en fait aux États-Unis et ce qui s'est produit pour la psychanalyse. Donc il y a quand même un niveau quand même de cette articulation entre la psychanalyse et l'histoire qui s'applique à l'histoire de la psychanalyse elle-même, dont Lacan dit que la psychanalyse elle peut pas s'en passer de Freud, lui, disons de sa tradition, quoi, en quelque sorte. Voilà, je voulais rajouter ça. Et voilà,
il faut aussi envisager la possible disparition des discours.
Voilà.
Parce que c'est présent dans les thèses de Lacan, avec l'idée qu'il y a eu d'autres discours qui ont disparu, avec l'idée que la psychanalyse comme discours peut disparaître, et que voir les trois autres peuvent disparaître. Puisque les discours sont appendus à un dire, c'est-à-dire quelque chose de totalement... relevant du hasard, de la contingence au sens banal du mot contingence, bon, quelque chose d'existentiel, donc ça peut disparaître, ça n'est pas vitam aeternam, hein. Et on devrait commencer à envisager, au-delà des discours de Lacan, qu'est-ce qu'il a avancé, qui ne va pas dans le même sens.
Bon, donc je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, non ? Peut-être il y a d'autres questions dans la salle, non ? Avant de vous inviter, il y a un pot, à prendre un pot à l'arrière. Voilà, bon, merci beaucoup et bonne soirée.